Bonjour.
Bonjour. Alors, donc aujourd'hui, on vous reçoit pour évoquer le dernier, alors un article de Libération dans son numéro des samedis 9 et dimanche 10 août 2025. Donc, il s'agit d'un article rédigé par la journaliste Sophie Desdésert, qui a donc consacré un article de 4 pages sur le recteur de la mosquée de Paris, Shamsuddin Hafiz. Alors, il s'agit d'un article. Alors, déjà, ce qu'il faut dire, c'est que vous avez été interviewé par Sophie Desdésert, mais que elle n'a rapporté aucun de vos propos dans l'article en question.
Sur un ou deux points.
Sur un ou deux points.
Oui.
D'accord.
Mais le dernier mot, c'est le recteur qui l'a eu. Et donc, c'est un dossier qui est ambivalent, qui peut servir à la communication et à la propagande du recteur en direction des personnalités, des institutions algériennes d'Algérie qui le contestaient.
D'accord.
Donc l'apologie dont il fait l'objet et la manière dont lui lui a présenté les choses et elle-même a reproduit sans discernement ce qu'il dit de lui-même, c'est pas la gloire de Libération qui nous a habitués à un peu plus de discernement. D'accord. Il y a une partie à journalisme d'attaché de presse.
Bah, effectivement, je pense que on peut effectivement penser raisonnablement qu'il y a un côté publi-reportage qui a l'air tant bien que mal d'assurer la promotion du recteur de la mosquée de Paris, recteur de la mosquée qui est présenté comme un trait d'union et presque le dernier trait d'union entre Paris et Alger. Alors le titre de l'article, c'est Shamsuddin Hafiz, un recteur au cœur du réacteur franco-algérien. Et d'ailleurs, ce qu'il faut expliquer avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est que le recteur de la mosquée de Paris fait la une de Libération. Donc, ça veut dire que c'est un personnage à l'heure actuelle qui est de première importance pour Libération et notamment pour ce qui est donc des questions la question des relations franco-algériennes et des questions liées à la présence de l'islam en France, quoi.
Ben, son service de communication le considère déjà comme un triomphe. Le fait qu'il ait droit à la une au moment où il y a la guerre en Ukraine, des carnages à Gaza, où Libération ne veut pas qu'on parle de génocide. Libération défend une sorte de sionisme de gauche. Ils sont à peine anti-Netanyahou, c'est tout. Oui. Mais ils jugent l'actualité internationale à l'aune de l'antisémitisme qui serait synonyme de antisionisme. Et le seul point où il est jugé un peu sévèrement, ce recteur qui est rejeté par la communauté depuis 5 ans et Libération n'a pas l'air d'avoir été mis au courant. J'en ai parlé un peu pendant 2 heures à cette brave journaliste, mais qui montre un manque de professionnalisme, pour rester poli. Hein. Donc, Hafiz les déçoit uniquement parce qu'il n'a pas été à la marche contre l'antisémitisme. Et qu'il n'a pas. Et ils prétendent qu'il n'a pas dénoncé le 7 octobre.
Oui.
C'est faux. Il a été le 23 octobre avec le grand rabbin sur BFM TV, où il a dit des choses qui ont amené des personnalités algériennes a exigé son éviction du président Tebboune, notamment le président du Sénat, qui est un ancien de la guerre de libération. Et pourquoi ? Parce qu'il a servi de béni-oui-oui au grand rabbin qui se préoccupait de la sécurité d'Israël seulement, qui traitait le Hamas de terroriste. Ensuite, il a dit qu'il approuvait la proposition faite l'avant-veille ou la veille par le président Macron en face de Netanyahou, où il voulait constituer une coalition anti-Hamas,
oui,
à l'instar de celle anti-Daesh. Le Quai d'Orsay a mis les choses au point le jour même, et Agnès Levallois l'a dit en direct, non, l'Union européenne considère le Hamas comme terroriste, mais l'ONU le considère comme mouvement de résistance.
Agnès Levallois qui est...
Agnès Levallois, elle répercute le point de vue du Quai d'Orsay.
D'accord, voilà, c'est une porte-parole du ministère des Affaires...
Non, elle n'est pas porte-parole. Mais ce qu'elle dit, ça reflète vraiment la ligne du Quai d'Orsay dont veulent s'écarter un certain nombre de diplomates qui vont jusqu'à considérer le général de Gaulle comme antisémite pour sa conférence de presse du 27 novembre 67. Mais après, il y a eu une sorte de rétro-pédalage assez habile du président Macron. Il a dit, non, moi je voulais parler d'une coalition pour l'aide humanitaire. Mais en face de Netanyahou, il a cédé à l'émotion, il y a quelques penchants qu'on peut comprendre. Mais est-ce que Hafiz était obligé de dire oui, comme il disait oui à tout ce que disait le grand rabbin ? Non. Après, Yves Calvi l'a interrogé sur Mélenchon, il a injurié Mélenchon. En Mélenchon, tout le monde sait que 70% des électeurs musulmans ont voté pour lui. Et Hafiz prétend être le représentant des musulmans en France. Comment peut-il être le représentant de gens qui sont d'accord avec celui qui l'injurie pour faire plaisir aux médias ?
Mais où est-ce que Shamseddine Hafiz a expliqué qu'il représentait les musulmans
Partout. Pourquoi à l'Élysée, à la cérémonie des vœux pieux, il n'y a que lui ? Depuis que le CFCM est renvoyé, il n'y a que Hafiz. Et puis, sur le Jazeera, à Rome, quand il s'est fait recevoir par le pape, il s'est dit le représentant de l'islam, même en Europe, depuis qu'il a les taxes, de l'Union européenne. Et il n'y a que le pape à Marseille, qui a consulté Monseigneur Aveline, qui a barré le nom de Hafiz de la liste des invités, qui devait recevoir, parce que Aveline, originaire d'Algérie, il sait qu'il ne représente rien. Voilà donc des religieux qui savent ce qu'est la légitimité religieuse. Comme il a été créé cardinal, je crois, Aveline. Il était même papabili à la mort du pape.
Peut-être là,
Il est président de la... Maintenant, il est promu à Paris.
D'accord.
Mais Hafiz a reçu une des nombreuses claques quand il n'a pas été reçu par le pape à Marseille. Parce que Aveline lui a préféré Ghaleb Benchir, président de la FIF.
FIF, c'est l'acronyme de quoi déjà ? Fraternité.
Fondation de l'Islam de France. Qui a été reçu plus de deux heures par Macron, alors que Hafiz n'a jamais eu de tête-à-tête avec Macron.
Oui.
Là, il se glorifie d'avoir tutoyé Sarkozy. Sarkozy tutoyait le pape lui-même quand il le fallait. C'était d'une familiarité, mais. Et c'est ce genre de discours qui induit en erreur les vice-consuls, les lieutenants-colonels du DRS qui viennent d'arriver à Paris et disent « Moi je connais, je tutoie les ministres, les présidents, faites-nous confiance, nous sommes là pour infiltrer l'État français au profit de l'Algérie. » On le prenait, il se faisait passer pour un grand influenceur. Or maintenant il dit « On nous traite de bougnoule. » Donc où est passée cette influence si elle a jamais existé ? C'est ça que Madame Sophie des Déserts devrait découvrir si elle accepte de se relire et de tourner sa plume cette fois avant de décrire n'importe quoi la prochaine fois.
Effectivement. Alors, dans cet article, on trouve notamment parce qu'en fait, si le recteur de la mosquée est interviewé, il y a également celui qu'on pourrait appeler son bras droit, secrétaire général de la mosquée. Alors, son nom est cité, il s'agit de Mohamed Louanouri.
Oui, c'est le seul progrès par rapport au dossier de l'Express, il y a quelques mois, sur les services algériens en France depuis le déluge, depuis Noé jusqu'à nos jours. Et tout le monde a trouvé l'Express ridicule quand on consacre 20 à 30 pages au service algérien. Il n'y a pas un mot sur la mosquée de Paris dont tout le monde sait que c'est une mosquée DRS depuis 92. D'ailleurs, un léger progrès, cette Sophie a eu le courage de dire que c'est le DRS. Elle a cité des diplomates qui veulent rester dans l'anonymat et puis elle a donner la parole à cet imbécile de gros bras là, je lui dis, il a été recruté comme garde-corps, elle l'a pas mis. C'est là où moi j'accepte les dialogues avec les journalistes qui, comme celle de l'Express, heureusement que je l'ai pas vue celle-là. Et, oui. On a beaucoup échangé au téléphone. Mais après, je suppose, parce qu'elle est très jeune, celle de l'Express, là.
Oui, Alexandra Seviana, oui.
Oui. Je suppose que c'est la hiérarchie, la rédaction de l'Express. Elle a cité des diplomates qui veulent pas, qui veulent rester dans l'anonymat, et puis elle a donné la parole à cet imbécile de gros bras, là, je lui dis, il a été recruté comme garde-corps. Elle l'a pas mis. C'est là où j'accepte les dialogues avec les journalistes qui, comme celle de l'Express. Mm-hmm. Heureusement que je l'ai pas vue, celle-là. On a beaucoup échangé au téléphone. Mais après, je suppose, parce qu'elle est très jeune, celle de l'Express, là.
Oui, Alexandra Seviana, oui.
Oui. Je suppose que c'est la hiérarchie, la rédaction de l'Express, ne veut pas priver les bavards commentateurs français d'un thème sacral. C'est la diabolisation de tout l'islam, oui, à partir des horreurs du GIA.
Du groupe islamique armé algérien.
Oui. Or, le GIA, on a eu Rivoire, on a eu des procès au Caire à l'époque. Il y avait des doutes sur les GIA. En Algérie, tout le monde savait que c'est une création des services.
Oui.
Mais maintenant, c'est des généraux-majors qui le disent. Donc, il n'y a plus aucun doute. Or, l'Express ne veut pas qu'on le dise. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, Libération a une très bonne chronique religieuse qui est confiée à Madame Sauvager.
Sauvager.
Oui. Alors pourquoi envoyer Sophie Desgères et ne pas envoyer Sauvager? Ben parce que le but c'est pas l'islam en France. C'est d'abord le 7 octobre.
Oui.
De la crise franco-algérienne. Et Hafiz, oui, comme recteur, quelle est sa culture islamique ou son inculture islamique, son illettrisme islamologique, sa faible sensibilité religieuse, c'est le dernier des soucis de Madame des Déserts. Mm. Par contre, Sauvager se serait posé ce genre de questions.
Mm.
Et donc, c'est pas l'islam en France. C'est incidemment que ce dossier peut donner l'occasion de débattre sur les insuffisances de la couverture médiatique de l'actualité concernant l'islam en France.
Mais quand vous dites le 7 octobre des relations franco-algériennes, vous faites référence à la reconnaissance par la France de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental?
C'est les thèmes récurrents des quatre pages de Libération.
Oui, d'accord. Le 7 octobre et des relations franco-algériennes, c'est
ça. Ils jugent cet ignorant à travers la crise franco-algérienne. Donc c'est pour ça qu'ils l'appellent ambassadeur bis ou secret. Il y avait une France-Algérie. Mm-hmm. Et lui, il occupait une place assez importante dans cette France-Algérie qui est parfois pire que la France-Afrique du point de vue de pratiques illégales. La preuve, c'est que la mosquée, jusqu'à ce soir, est une zone de non-droit.
Oui.
La laïcité n'a jamais mis les pieds, n'a pas de droit de cité. C'est des pratiques les plus illégales. Le fait même que ce gros bras lui donne le grade de sergent alors que l'enquête a montré qu'il n'était que caporal. Avant d'être démobilisé.
L'enquête.
Il y a plusieurs enquêtes. Ce Lounouri a fait l'objet de 10 jours de garde à vue à Alger.
Oui.
Il a fallu un général qui parle kabyle comme lui, qui intercède pour qu'on le libère.
D'accord.
Et il a fait l'objet de garde à vue de la part des renseignements généraux avant même la réforme qui a créé la DGSI.
En France, du coup.
En France. C'est l'inspecteur qui l'a arrêté qui me l'a dit.
Okay.
Il m'a dit, on a obtenu son dossier militaire incomplet par l'attaché, le colonel de la DGSE qui était à l'ambassade d'Alger.
Mm-hmm.
Et ils ont fini par le libérer. Il m'a dit, on n'a pas trouvé de preuves, mais il y a eu une intervention en lieu parce qu'à l'époque, il était en pleine coopération policière. On croyait que lui pouvait être utile pour trouver les islamistes, les éventuels radicaux ou probable terroriste que les services français ne découvrent pas. Mais maintenant, il ne sert absolument à rien. À l'époque, il faisait croire à ça.
Oui.
Oui. Or, il m'a dit, on l'a libéré au bout de 10 jours. Je le connais très bien, cet inspecteur. Il venait à mes réunions. On a suivi une manifestation à l'époque pour la Palestine, d'enfer aux Invalides. Donc on est resté 20 minutes et je lui ai posé la question, il m'a dit oui, mais on a dû le libérer. Or, que devient cet inspecteur? Monsieur Le Nourri lui signe un gros contrat de sécurité à la mosquée de Paris. C'est lui qui assurait la sécurité à la sortie de la mosquée, donc c'est des contrats de juteux qui rapportaient. Alors, je ne sais pas s'il était à la retraite, c'est quelqu'un qui n'a pas pu devenir commissaire.
D'accord.
Pour des raisons X. Donc voilà, lui, il parle les caisses noires de la mosquée, il retourne même les gens qui voulaient le mettre en prison.
Oui.
Bon. Mais là, il avoue que, d'abord, c'est faux quand il dit qu'il a été envoyé pour combattre le GIA en 92. Le GIA n'a commencé à signer que fin 94. On a eu l'assassinat de Qasdi Merbah en août 93.
Ça, c'est l'ancien patron de la sécurité.
Si le GIA existait en 92, oui. On aurait eu un communiqué pour revendiquer l'assassinat de Boudiaf. Or, il n'y en a pas eu.
Non.
Et la mort de Qasdi Merbah non plus. C'est en 94 que... Donc, il est venu ici. Si c'était vrai... Nous savons maintenant que le GIA est une création des services algériens. Comment ça, la hiérarchie d'un caporal peut le charger d'aller combattre une structure créée par des généraux?
Donc
il dit n'importe quoi. Ensuite, il dit, j'ai travaillé avec Lerner, qui est l'actuel, c'est celui qui a été envoyé il y a quelques mois à Alger pour essayer de se rabibocher. C'est l'actuel patron de la DGSE.
Tout à fait.
Bon. Je trouve ça improbable, parce que la DGSE a toujours été opposée à la ligne de la DST, qui collaborait avec le DRS.
Tout à fait.
La DGSE était contre l'interruption des élections. Il y a un ancien de la DGSE qui a publié ses mémoires, il a mis dans les documents annexes le rapport qu'il a remis à Mitterrand, et Mitterrand a dit « vu », c'est-à-dire qu'il était d'accord. L'arrivée au pouvoir des islamistes ne changerait absolument rien à l'essentiel des relations franco-algériennes.
Mm-hmm.
Après, c'est le Rondeau, Philippe Rondeau.
Général, oui.
La DST qui ont eu le dessus, Mitterrand vieillissant, malade, en instance de divorce avec Daniel et tous les problèmes qu'il y a eu. Il voulait pas de vagues, il faut laisser les généraux pourvu que ça n'ait pas de retombée en France. Il prétend avoir travaillé avec la DGSE, mais un type comme ça, je crois qu'il ment. Et comme cette Sophie ne connaît absolument rien à ces questions, elle a cru sur parole. Et ensuite, il se plaint de n'avoir pas eu la nationalité française.
C'est ça.
Il m'a montré ce document, il le montre à tout le monde. Il l'a eu au bout de la quatrième demande.
D'accord.
Et alors, les premières demandes, et le rejet, motif du rejet... Agent des services algériens.
Oui.
Donc il se glorifie, dit voilà, je suis très fier que l'administration française reconnaisse que je suis des services algériens. Mais après, il dit qu'il a travaillé avec Lerner. Il risque d'être arrêté à sa descente d'avion à Alger. Parce que quelqu'un qui est d'un service et qui se met au service d'une autre administration sécuritaire d'un autre pays, il a des comptes à régler, à rendre à sa hiérarchie. Il risque d'être condamné.
Oui.
Parce que les agents, il y a beaucoup d'agents doubles dans l'histoire du renseignement, mais avec l'autorisation du premier service avec lequel il travaille. Or, lui, depuis qu'il a la société française, il se croit au-dessus des lois. Il est un peu comme Saint-Sal.
Voilà, c'est oui. Ça.
Oui, Saint-Sal, il croit que la nationalité française, c'est l'Immaculée Conception, et que ça protège contre tout. Or non, il y a dans le droit international, il y a ce qu'on appelle la loi du port. Le port d'où on est parti,
oui.
Qui prime en cas de conflit.
D'accord.
Donc c'est la nationalité d'origine qui prime sur la nationalité acquise en cas de poursuite. Donc l'Algérie a le droit de poursuivre un de ses ressortissants, mais elle l'a pas poursuivi pour les déclarations qu'il a faites à Tel Aviv, qui sont sur les réseaux sociaux, où il dit avoir obéi à Netanyahou en 97-18, quand Netanyahou était ministre des Finances, et qui a trouvé anormal que l'Algérie boycotte la rencontre de Davos, sur le Forum économique mondial.
Mmh.
Et c'est à la demande de Netanyahou que Sansal a convaincu l'État algérien d'envoyer un représentant à Davos.
D'accord.
Or, il a été jugé à 5 ans de prison, confirmé par la Cour.
Cour d'appel, oui.
Mais on ne l'a pas jugé là-dessus. Parce que si on l'avait jugé là-dessus, c'est le chef du renseignement qui aurait dû être convoqué. Qu'est-ce qu'il faisait, lui, qui était omniscient.
Et ça, c'est.
Or,
ça,
oui. L'imbécile, là, de DG de la.
Louanouri.
De la mosquée, je crois que c'est un pseudonyme. Moi, je ne cite pas ce nom, parce qu'il invente. Il s'est donné plusieurs autres. Quelqu'un qui, si vous voulez, Chirac a appelé les services de renseignement un bocal de grenouilles.
Tout à fait.
Or, c'est des gens qui sont habitués à mêler le faux du vrai, et il n'y a que Sophie Désert qui ne le sait pas. Elle aurait dû sous-peser virgule par virgule tout ce qu'il lui a dit et aller vérifier. Non, elle a servi, elle a fait du journaliste d'attaché de presse, et une partie de ce qu'elle a écrit sert la propagande de ces deux larrons.
D'accord. Très bien. Alors, ensuite, effectivement, donc, dans l'entretien donc, de Libération, alors effectivement, hein, Mohamed Louanouri a obtenu la nationalité française en 2012.
D'après au bout de la quatrième fois.
Au bout de la quatrième
fois. On a vérifié, parce que là, c'est en rapport avec une des retombées de cet article. C'est le problème des aumôneries militaires musulmanes.
Oui.
Bon. Or, ce gros bras était en conflit avec l'aumônier national de l'aumônerie militaire musulmane, le précédent, qui a refusé de recruter sa femme comme aumônière musulmane. Les aumôniers militaires musulmans débutent à 3 000 euros. Okay. Donc elle était obligée d'aller dans les hôpitaux à 850 euros. Pourquoi? Parce qu'elle a présenté un faux diplôme. Elle n'a jamais mis les pieds à l'institut quand il fonctionnait. Or, il n'était que DAG à l'époque. Voilà les imbécilités. Il a commencé garde-corps. Et puis, quelques mois après, il s'est autoproclamé inspecteur
des imams.
Des imams. Oui. Il a créé des conflits parce que c'est un grossier personnage qui utilise des gros mots, qui insulte Dieu. Devant moi, il a dit Nalder Rab Bouteflika, que Dieu maudisse le Dieu de Bouteflika.
Oui, voilà.
À qui il reprochait n'avoir pas mis suffisamment de kabyles au gouvernement.
D'accord.
Et lui, à un moment, à la cuisine de la mosquée, on parlait kabyle.
Oui.
Parce qu'il a recruté que des gens de sa tribu, de la famille de sa belle famille. Et la langue de la cuisine, c'est devenu le kabyle.
OK.
Et il se plaignait de l'éviction d'un certain nombre de ministres qu'ils auraient, notamment les ministres du culte qui le soutenaient, pas les ministres, le secrétaire général qui a été viré par Bouteflika, c'était un de ses protecteurs.
D'accord.
Et donc ce type-là qui se plaint de du nombre insuffisant de ministres kabyles, donc il est régionaliste, on l'a accusé d'avoir rencontré Farhat Mahni.
Oui, qui dirige le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie.
Le mouvement indépendantiste de la Kabylie.
Tout à fait.
Bon. Alors, il a obligé le directeur de l'Institut Razali, qui fonctionnait moyennement bien, il allait dans le bon sens, parce que Boubacar répétait la mosquée n'aura aucun sens si l'Institut ne fonctionne pas bien.
Effectivement.
Oui. Or, l'Institut ne fonctionne pas. C'est Louanouri qui s'est dit directeur de l'Institut. Il a fait fuir tous les enseignants.
D'accord.
Il n'y restait que les imams CCP qu'il terrorisait. Mais maintenant qu'il n'y a plus de détachement, il n'y a plus d'Institut.
Qu'est-ce que vous appelez des imams CCP?
Les imams CCP, c'est les imams algériens,
oui.
Quand on les a fonctionnarisés. Ils
D'accord.
avaient un CCP.
D'accord.
Et il y en a un, la première année où il était imam, avant il était bénévole. Il avait droit au congé annuel. Et donc il a dit, à partir de lundi, je suis en congé, mais il a raté le train, etc. Le lundi, il était là, et on lui a demandé de diriger la prière, il a dit non, je suis en congé. Donc lui, il dirige la prière uniquement aux heures ouvrables. Donc c'est l'esprit bureaucratique.
Bon.
Et les imams, ils se l'honorent, les obligeaient à moucharder. Il faisait des rapports sur les fidèles, sur les membres de l'association. Et il a induit en erreur sa hiérarchie en Algérie. Il y a des gens dont on a demandé l'arrestation dans les rapports hebdomadaires envoyés de la Grande Mosquée de Paris. Mmh. On a parlé de la dernière fois du vieux paroissien qui était là depuis 58, qui a soigné sa dent chez le frère de Hafiz.
Oui.
Bon. Et il a, comme il lui a dit, on va la répéter, ça donne une idée de ce qu'est monsieur, ce recteur, qui est devenu un grand influenceur bidon.
Oui, oui.
Il a dit, je viens de Paris, l'autre lui a dit, je vous soigne si vous me payez en devise. Mm-hmm. Donc l'autre, il avait un chèque CCP, voilà. Justement, c'était un enseignant.
Chèque postal, hein,
oui.
Ça fait un moment de.
Donc il a payé, ses soins. Mm. Et à la fin des vacances, il reçoit une lettre d'un cabinet du 8e arrondissement, signé Shamseddin Hafiz.
Oui.
Mon frère vous a soigné à Paris, à Alger, il faut me payer à Paris. Question, comment il a eu son nom, comment il a eu son adresse? Sinon, par le chèque.
Voilà.
Et si on a signé un chèque, c'est qu'on a payé.
Et ben voilà.
Donc ce monsieur, il voulait se faire payer deux fois parce qu'il manquait d'argent. Il était vraiment un affamé.
Voilà, oui.
Et il manquait d'un. On a une autre. Madame Sophie des machins, là.
Des déserts.
Des déserts, je ne sais pas d'où vient ce mot. Elle nous dit que Madame Hafiz est enseignante.
Mm-hmm.
Enseignante en quoi? Quand il est arrivé, elle était femme au foyer sans profession. Et il avait du mal à lui faire sa carte. Il n'avait pas encore rencontré Sarkozy à l'époque. Les mauvaises langues disent que lui, il a rencontré Sarkozy sur le tard par rapport à son épouse. Mm-hmm. C'est des rumeurs, il y a beaucoup de rumeurs. Il n'y a que des rumeurs sur l'islam en France.
Mm.
Donc le fait de les reprendre, ça ne veut pas dire qu'on y croit. Il a été voir un ami expert comptable qui est toujours en poste.
Oui.
Il lui a demandé des fiches de paye, de fausses fiches de paye, pour l'aider à avoir un titre de séjour pour sa femme.
Mm-hmm.
Donc elle était sans profession.
D'accord.
Or là, Hafiz, d'habitude, dans les journaux algériens, quand on lui dit qu'il ne connaît pas l'arabe, qu'il est inculte théologiquement, qu'il n'a pas de culture islamologique, il répond en disant « Mon frère est shahid, martyr de la Révolution,
oui.
Et ma sœur, à elle, Tissal, agent de liaison de la zone autonome. » Or, il y a eu des vérifications où les gens disent, effectivement, il a un frère mort pendant la guerre, mais on suppose qu'il a été victime de la bluite, de la cruauté d'Amir Rouche.
Oui, dans la wilaya numéro 3 d'Algérie. Hein,
oui, mais il y a eu des retombées dans la wilaya 4. L'année
aussi,
d'après.
C'est vrai,
oui.
La bluite, c'est une opération, pour rappel, de purge
oui.
interne.
Son frère aurait été, selon les gens, lui, il connaît rien à la mémoire. On veut lui attribuer un rôle dans le phénomène Stora, etc. Il connaît absolument rien. Il s'est trompé sur les dates de la célébration du centenaire de la mosquée.
Oui.
Et sa sœur, personne, les militants de la zone autonome, ils avaient 18, 19 ans, ils sont tous vivants. Personne ne se souvient de sa sœur. Ni voilée, ni avec un haïk, ni dévoilée, ni en mini-jupe, inconnue au bataillon. Or, maintenant, il a vu que ça provoque des doutes, des interrogations, et il se met à parler de ses filles.
D'accord.
Ses filles qui auraient étudié à Assas, fac de droit, fac de droite, dont une mariée, un Américain, non musulman, à Miani. Madame Sophie des Déserts était fascinée par ce succès. Et moi, ça me rappelle le dossier consacré au même Hafiz dans Jeune Afrique.
De quand est-ce qu'il date, ce dossier?
Alors, il date la fin des années 90, début des années 1000. Je me souviens très bien de la pigiste qui s'appelait Zoé Amalou.
Okay.
Qui m'a appelé. Quelqu'un là. Moi, je lui ai dit, moi, je connais ce type-là, j'ai des interrogations. J'ai absolument rien contre sa personne. Il m'embrasse au cachou, avec un sourire jaune, très crispé. qui montre une certaine hypocrisie, des velléités de se faire passer pour un autre. À titre personnel, j'ai absolument rien. Mais moi, je le voyais rentrer à la mosquée et aller toujours à gauche. Mmh. Il rentrait dans le bureau du vice-recteur, avec lequel j'apprenais beaucoup de choses. Il venait se plaindre que la mosquée ait un avocat non musulman. Mmh. Disait, la mosquée doit avoir un avocat non musulman. Il a fallu l'arrivée du colonel qui est cité par Sophie Désert, dont le nom est cité, qui l'a imposé avocat forfaitaire de 10 à 12 institutions algériennes en France.
Quand vous dites qu'il est cité, moi, alors, dans le dossier de dans l'article de Libération, le colonel en question.
Oui, cite le colonel Ben Daoud.
Voilà, le colonel Abdelhamid.
D'ailleurs, moi, je l'ai testé quand elle est venue me voir, moi, je la connais pas. C'est elle qui a cité ce nom avant que je lui dise effectivement, oui. Parce que c'est quelqu'un qui a demandé à me voir, et je lui ai dit, le mouchardage, il ne devrait pas compter sur moi pour ça. Ça lui a beaucoup déplu. Mm. Donc, moi, il a demandé à me voir. Moi, même une médiocre journaliste comme celle-là, je ne refuse pas de la voir.
Bon. Oui.
Et donc, quand on est nommé, imposé avocat forfaitaire, c'est parce qu'on n'arrive pas à gagner les procès. Ils perdaient systématiquement les procès au prud'homme d'Air Algérie, du centre culturel et surtout de la mosquée.
Oui.
Et donc le colonel l'a imposé à 6 consulats, moyennant quoi il n'arrête pas de dénoncer l'islam consulaire, alors qu'il est l'incarnation de l'islam consulaire.
Tout à fait.
Et donc ça c'est une honte pour les journaux français qui le croient sur parole et sans vérifier. Là, c'est le seul point utile de l'article, un des rares points, où elle avoue que c'est la première fois qu'on dit qu'il avait été l'avocat forfaitaire d'au moins 10 institutions algériennes en France.
Effectivement.
Et que le président Tebboune a imposé sa fille pour le remplacer.
D'accord.
Et elle est avocate forfaitaire de lycée, de centre culturel, etc.
La fille de Shamseddin.
La fille de Shamseddin, celle qui ne s'est pas mariée à un Américain à Miami.
D'accord, donc il y a du népotisme aussi.
Bien sûr.
Très bien. Alors, autre point qui est abordé dans l'article de Libération, alors ça date de la période durant laquelle Jean-Pierre Chevènement était ministre de l'Intérieur, donc entre 97 et 2000. Elle explique que à cette époque, Jean-Pierre Chevènement répétait, alors je vais la citer, « Surtout pas de bras de fer à la mosquée de Paris, on ne veut pas d'attentats en France. » Donc ça, c'est notamment par rapport à, je ne sais pas s'il y avait des luttes à cette époque-là.
Est-ce qu'elle a entendu Chevènement dire ça? Est-ce qu'il y a un enregistrement?
Ah ben, je n'en sais rien.
Ben, je sais d'où ça vient, ça.
Alors, dites-moi.
C'est moi qui ai dit ça à Didier Mochan le 2 septembre 1997.
Qui travaillait aux côtés de Jean-Pierre Chevènement.
Et il était conseiller spécial chargé du dossier sensible.
D'accord.
Et il m'a reçu avec un ancien secrétaire d'État, Abdelkader Barakrouk, et un ancien préfet devenu conseiller d'État, Ourabah.
Oui.
Et on lui a préparé, c'est moi qui ai rédigé une note de 7 pages que j'ai publiée dans mon prochain livre, dont la première phrase disait, je cite, « L'islam en France est dirigé par une demi-douzaine d'officiers de renseignement d'ambassade, dont certains sont des alcooliques, qui n'ont rien à voir avec la religion. »
Bon.
Mochan, c'est quelqu'un qui avait une grande capacité d'écoute, mais là, il a réagi, il a dit, donc il y a toutes sortes d'États qui s'intéressent à nos musulmans, sauf l'État français. Mm-hmm. Donc on va essayer de rattraper ça. Et le discours de Ourabah et de Barakrouk, c'était contre la famille Boubaker et la mosquée de Paris. Ils ont convaincu Mochan que Boubaker n'était pas à sa place. Mmh. Il a dit, j'ai des amis algériens, on va essayer de lui trouver un remplaçant. Mmh. Et c'est moi qui étais à l'origine de cette formule un peu malaxée, mal citée. Je lui dis, essayez de régler ça discrètement, éviter toute médiatisation, parce que tout bras de fer avec l'Algérie autour de la mosquée ou autre chose peut conduire à la à d'autres attentats comme celui du RERB qui datait de deux ans.
Oui, oui, de 95.
On est en 97. Ouais. C'est moi qui ai dit ça.
Oui, d'accord.
Et là, vous voulez la suite ?
Allez-y.
Mouchane a été voir l'ambassadeur d'Algérie.
Oui.
Qui s'appelait Roualmi.
Oui,
un type... Roualmi lui a dit, nous souhaiterions que l'Algérie trouve un remplaçant au recteur actuel qui ne donne pas satisfaction.
C'était Dalil Boubaker à cette époque-là.
Oui. Oui, Dalil, à l'époque, il confondait. Mais il faut admettre que Dalil s'est beaucoup amélioré. Ben, 28 ans, ça suffit pour s'améliorer. L'ambassadeur transmet à la présidence algérienne, le président de l'époque, Sarwal, ordonne une réunion de 5 ou 6 ministres intéressés directement par le dossier de la mosquée ou indirectement. Et à la sortie de cette réunion, il y avait autant de candidats au remplacement de Boubaker que de ministres. Le seul désaccord, c'était quel candidat choisir. Chaque ministre voulait envoyer quelqu'un. Mm-hmm. C'est ça l'Algérie, c'est le poste et les caisses noires et les avantages que ça rapporte et les détachements, etc. L'État algérien lui-même ne s'intéresse que de ce côté-là, à cette institution prestigieuse, mais paralysée.
Oui, parce que ce que nous dit Sophie Desdéserts dans son article, c'est qu'en fait, à cette époque-là, Jacques Chirac, qui était donc président de la République française, en fait, souhaitait pousser un recteur originaire du Maroc à la tête de la mosquée de Paris. Ça, c'est ce qu'elle nous explique, d'où...
C'est eux qui disent ça, parce que leur argument... démagogique, c'est de dire on est menacé par les Marocains, il faut dissuader les Français qui veulent nommer un Marocain, c'est faux. Il y a eu un candidat qui s'appelait Barozouane, c'était un médecin spécialisé en ophtalmologie et qui était ministre des Affaires religieuses et qui a été accepté, qui a été proposé par Bouteflika et Chirac l'a accepté et comme ça s'est ébruité. Chirac a dû recevoir le cardinal Lustiger, le grand rabbin Citruc, le président du CRIF, et peut-être une quatrième personne qui ont imploré Chirac, qui lui ont dit « Nous avons encore besoin de Boubaker pour la mise en place du CFCM ». Ils lui ont sauvé la mise. Donc voilà les protecteurs du recteur de la mosquée de Paris. Il n'y a aucun musulman. D'accord. Il y a le consistoire, le grand rabbin, le président du CRIF et le cardinal Lustiger.
Mais quel était l'intérêt de conserver Dalil Boubaker par rapport à la création du Conseil français du culte musulman ? Et
c'était un prétexte. Il voulait qu'il reste. C'était l'interlocuteur idéal qui, par exemple, pour obéir au CRIF, Boubaker et Hafiz avec lui, niaient jusqu'à récemment la protection des juifs au moment où ils étaient menacés de déportation. J'en ai parlé avec eux. Et c'est la raison pour laquelle il y a eu toute une campagne au moment de la sortie du film Les Hommes Libres.
Oui.
Où il y avait même Michael Dambal, je crois, l'acteur, qui jouait le rôle de Bonaparte. Même Stora a participé à ce début de négationnisme. Où Bonaparte était présenté comme un collaborateur qui a été à Vichy. Il a été convoqué à Vichy. Comme tout le monde.
C'était le recteur de la mosquée de l'époque, Sifadot Ben Rabbani.
Oui, mais on a la preuve. Oui. Moi, j'ai la preuve d'un commandant juif à Souline, originaire de Fès.
Oui.
Qui a été avec un jésuite qui s'appelait le père Riquet. Un jésuite qui était pour le dialogue avec, attaché à l'unité de la Shoah, etc. Moi, j'avais un. Au début, on s'est disputé, là, parce qu'il disait la libération de la Palestine en 48, je lui dis ce que vous appelez libération, c'est une occupation.
Oui.
Bon, après, il s'est modéré. Et ils ont été voir Simone Veil, qui s'appelait Simone Jacob. Elle leur a dit, à 17 ans, j'ai été caché à la mosquée de Paris avec beaucoup d'autres juifs, des centaines. Le chiffre atteint 1700. Elle s'appelait Simone Jacob à l'époque. Et donc, j'ai échappé au premier rafle. Elle a fini par être déportée. Mais elle leur a dit, il vaut mieux ne pas le dire.
Pourquoi il ne faudrait pas le dire?
Ça, c'est Abdel Wahab Msiri, le spécialiste du judaïsme et du sionisme dans le monde égyptien, qui a dit, il y a un des traits de la psychologie d'une catégorie de gens attachés à la Shoah, etc., c'est qu'ils ne veulent rien devoir à personne. D'accord. Ils veulent pas qu'on dise que d'autres leur ont rendu service. Malgré le fait qu'ils donnent le titre de juste parmi les nations, parmi les catholiques qui les ont sauvés, et surtout pas de musulmans. Ils veulent pas qu'on dise, ils veulent faire passer tous les musulmans pour des antisémites. Comme l'a dit Georges Bensoussan, en direct sur une radio, en tout musulman sommeille un antisémite. Oui, puis, or, l'accusation d'antisémitisme fait partie de la nouvelle islamophobie. Moi, j'ai parlé en direct sur Affaire 3, quand un premier documentaire sur le sauvetage des juifs par la mosquée de Paris a été diffusé, 97-98. On a eu l'unanimité dans Télérama, tous les journaux ont approuvé. Mais au moment du film sur les hommes libres, il y a eu un tollé, la mosquée n'a jamais protégé les juifs. Et le recteur était vichiste, pro-nazi. Et Hafiz a participé à ça, dans une déclaration à Télérama. Et parce que du temps de Sarkozy, il y avait une emprise du CRIF sur la mosquée de Paris. C'est un secret de polichinelle.
Mais qui est allé dire que la mosquée de Paris n'avait pas caché de juifs et de juifs menacés de déportation?
C'est des gens qui sont venus voir Boubacar. J'en ai parlé avec lui. Il m'a dit, nos amis juifs contestent le chiffre. Je lui ai dit, il suffit qu'il y en ait un pour qu'on en parle. Les chiffres, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Et c'est pour ça que Boubacar a refusé le tournage du film à la mosquée. Il a été tourné au Maroc dans un palais qui ressemble un peu à la mosquée. D'accord. Donc il y avait une emprise. Boubacar était courageux, mais jamais téméraire. Donc Hafiz a participé à une émission pour Al Jazeera où il a changé de registre. Et le Jazeera m'a envoyé le montage, demandé mon avis. Et ce documentaire n'est toujours pas diffusé depuis 2 ans, parce que je leur ai envoyé une déclaration de Hafiz dans Télérama où il dit exactement le contraire. Le Jazeera a dit, on aurait l'air très fin si on diffusait les déclarations de Hafiz pro Ben Rabrit, alors qu'il venait de le démolir dans Télérama. Donc c'est Jazeera qui aurait été accusé d'ignorance. Quelqu'un qui tient un double langage et puis on laisse passer, ça se fait pas. Malheureusement, Sophie Desert n'a pas eu ce réflexe. Elle n'a pas vérifié. Il y a beaucoup de choses fausses qui font partie de l'autopromotion de par Hafiz, qui est d'un narcissisme connu. Et qui cherche s'attribuer des rôles qu'il n'a jamais eu. Par exemple, il y a une énormité. Les deux s'attribuent un rôle dans la libération des otages français au Liban en 1988.
Ok.
Et ils étaient où en 88? Ces deux acolytes. Oui. Moi, j'ai joué un rôle. D'accord. Pas à la mosquée. J'en parlerai un jour. Soit chez vous, soit ailleurs.
Oui.
Moi, j'ai été sollicité parce que mon livre venait de sortir, mon premier livre.
C'est rappelez-le le titre, c'était aux éditions Tougui.
L'islam et les musulmans en France. Je me trouve invité à dîner chez un membre du cabinet de Bernard Raymond, qui était ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement de la cohabitation.
Chirac. Oui, entre 86 et 88.
Hein. Voilà. Il m'a dit, nous avons lu votre livre. Les musulmans ont des droits et nous nous engageons à faire valoir ces droits. Mais les musulmans, de leur côté, devraient aider la France quand elle est en difficulté. Dit, quelle difficulté? Et il m'a dit, nous ne savons même pas où se trouvent nos otages à Beyrouth. On les déplace dans les impasses, dans les petites rues, etc. Nous voulons transmettre un message pour dire qu'il faut les traiter conformément à la convention sur les prisonniers de guerre de 1949, convention de Genève.
Oui.
Il m'a dit, que doit-on faire pour transmettre un message? Je lui ai dit, moi j'ai jamais été à Beyrouth. Et il m'a dit, oui, mais bon, Beyrouth, il y a beaucoup de Libanais, Bon, je lui dis, mais vous savez que les services algériens sont très présents à Beyrouth, vous allez me créer par... Il me dit, on vous protège. Bon. Donc j'ai fini par lui donner une filière qui a abouti. J'ai la preuve que ça a réussi.
D'accord.
Pourquoi ? Parce que quelques temps après, Joël Kaufmann, dont le mari était otage avec Michel Sora, quand elle a reçu un courrier de son mari, elle qui était dans un endroit inconnu, elle a dit, je remercie tous les amis musulmans qui nous ont aidés à avoir des nouvelles de nos otages. J'en ai fait partie et je ne m'en glorifie pas. Comme j'ai signé une pétition pour la libération de Michel Sora en 81, un an ou deux avant, au moment de l'Aïd. J'ai dit, c'est le pardon, la grâce et tout. Mm-hmm. J'ai signé, etc. Eux n'étaient pas là et la mosquée n'a joué aucun rôle. C'est du mensonge absolu qui déshonore Libération et qui ridiculise cette plumitive.
D'accord, oui, parce que Shamseddine Hafiz n'était effectivement pas encore arrivé...
Non, il est arrivé au début des années 90.
Et Mohamed Louanouri aussi. Oh ben, mais après.
Il est arrivé après lui.
Voilà,
c'est mais il est arrivé à la mosquée en 98. Mmh. Nommé par le colonel, le petit Ismaïl, on l'appelait, Benguedda, mmh. qui était son agent. Et Boubacar a flippé quand on lui a retiré un port d'armes mm-hmm. qu'il avait hérité de Haddam.
Oui, l'ancien recteur de la mosquée.
Oui, qui a été au HCE après. Oh, Haddam a pris peur quand on a tué le directeur d'un centre islamique à Bruxelles.
D'accord.
Il a été pleurnicher à la préfecture, elle lui a donné un port. D'ailleurs, Haddam, on voyait le flingue, là, il le mettait comme un cow-boy quand il se baladait dans le jardin de la mosquée.
Mm. Ok.
Parce qu'Adam, au moins, il allait faire la prière du milieu de l'après-midi. Mm. Quittait son bureau, il lisait le Coran, ce que Hafiz est incapable de faire. Hafiz, il ne sait pas prier. Ni, alors, diriger la prière, c'est vraiment surhumain pour lui. Et le recteur de la mosquée, de temps en temps, il prend la parole en arabe avant la khutba. Il est incapable de faire ça. Et donc, ce qui fait que si c'était Sauvager qui s'en était occupé, elle se serait souciée un peu de ce que pensent les musulmans de ce faux représentant. Ce qui n'est pas le cas de Sophie. Elle lui fait de la promotion, elle reproduit des discours d'autopromotion.
C'est effectivement, oui.
Qui peut utiliser pour faire taire une partie de ses contestateurs à Alger qui ont demandé sa démission. Or, là, cet article, il a eu déjà une première conséquence, il y a une ébullition à Alger, où on a pu vérifier que Hafiz a été, il y a un mois ou deux, un mois et demi, à Dubaï, parce qu'il a senti qu'il allait vers une crise avec l'Algérie.
D'accord.
Et donc, il a été amené par quelqu'un qui signait Benbadis al-Khattabi, qui s'appelle Hassan... Farid Hannash, mm-hmm. qui a écrit des articles incendiaires contre Louanouri, et Louanouri l'a retourné. Maintenant, il travaille pour la mosquée. C'est lui qui a amené. Alors, Louanouri est plus prudent, il va pas avec eux à Dubaï. Parce qu'à Dubaï, on donne autant de millions qu'on veut, à la condition de parler de la normalisation avec Israël tous les vendredis dans la khutba.
Et parce que les Émirats arabes unis reconnaissent depuis 2020 Israël, en fait. Ils ont normalisé leurs relations avec cet État.
Mais ils font de l'appui pour ce qu'on appelle les accords d'Abraham.
C'est exactement ça. Voilà. Oui. On en a parlé d'ailleurs dans notre émission du mois d'août des accords d'Abraham, signés par le Maroc, les Émirats, Bahreïn et Soudan.
Oui, oui. Or, là, il risque d'être convoqué. C'est très curieux parce que en mars 2023, ils ont appris qu'il a été discrètement, soi-disant, en Israël.
Ok.
Parce qu'il y a un avion d'El Al qui va de Roissy à Tel Aviv.
D'El Al.
La compagnie israélienne.
D'accord, voilà.
Or, quelqu'un a vu Hafiz dans la salle d'attente d'El Al.
Ok.
Moi, j'ai essayé de vérifier et même de défendre un peu Hafiz. Je lui dis peut-être qu'il est parti aux Émirats. Il m'a dit non. Le vol d'El Al de Roissy, qui s'envole de Roissy, ne va que vers Tel Aviv. Pas vers. Donc il a été. Du côté algérien, on considère une visite aux Émirats comme étant gravissime par rapport à une visite à Tel Aviv. Mm-hmm. Parce qu'ils ont laissé passer la visite à Tel Aviv. Okay. Il était pour des raisons qu'on peut, qui seraient trop longues. Or, à l'époque, quand il n'arrivait pas à se faire recevoir, ni à la présidence, ni dans les ministères, mm-hmm. il a demandé rendez-vous à Ahmed Taleb Ibrahimi, qui est le fils du cheikh Ibrahimi.
Oui, ancien ministre en Algérie, Ahmed Taleb.
Et ancien candidat.
Aussi.
À qui Tebboune a rendu visite chez lui. C'est le seul que Tebboune n'a pas voulu fatiguer en le faisant venir à la présidence. Il a été chez lui. Mm-hmm. C'est arrivé aux oreilles de Hafiz. Il a demandé rendez-vous à Taleb pour qu'il le recommande à Tebboune. Tebboune ne recevait plus Hafiz, notamment après sa participation à l'émission de BFM TV avec le grand rabbin.
Oui, par...
Parce que des ministres, des officiers, le président du Sénat ont demandé son limogeage. Mmh. On lui a sauvé la mise par des entourloupes qui lui ont valu une rupture avec le CRIF et le grand rabbin. Ils lui ont rédigé un texte arabe où il défend le Hamas. Mmh. Mais il a oublié que Corsia connaît l'arabe.
Et oui, le texte est arrivé. Corsia qui est le grand rabbin.
Ah ben, ils veulent plus entendre parler de lui. Ils disent qu'est-ce qu'il se, il se prend pour qui, il nous prend pour qui. Parce qu'il se paye la tête des autres. En leur disant, le Hamas est terroriste, et il fait l'apologie en arabe du Hamas.
C'est un double discours, hein, au final.
Oh, bah, depuis le début.
Complètement.
Depuis le début, il a dit à un de mes étudiants, qui a fait un mémoire, qui est parti le voir avec une liste de déclarations choquantes, dans les journaux français, ou même dans son blog, ou sa page Facebook, etc. Ce serait un exercice. On peut faire plusieurs mémoires, en résumant ce qu'il a promis sur sa page Facebook, et c'est ce qu'il est devenu. Or, il lui a dit, mais vous ne comprenez rien du tout, nous sommes tenus d'avoir un discours pour les Français, et un discours pour les musulmans. Or, c'est un grand écart, après, c'est fini, on peut avoir une tendinite, comme on dit, tendinite.
Tendinite, oui.
Oui. Et là, on y est en plein. Donc on peut pas mentir à tout le monde tout le temps. C'est un président américain qui a dit, Lincoln. Abraham Lincoln, il a dit, il est impossible de mentir tout le temps à tout le monde.
Et l'une des, comment dire, l'une des personnes, l'un des responsables politiques français à qui Shamseddin Hafiz ne peut pas mentir à l'heure actuelle, en fait, c'est le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, parce que dans l'article de Libération, il est expliqué que Shamseddin Hafiz, donc, a exploré, je cite, l'appareil d'État, multiplié les contacts d'Ankara à Riyad et noué des liens quasi amicaux avec l'ex-responsable du bureau des cultes français en 2011, Louis-Xavier Thirod, qui est devenu préfet et ensuite directeur adjoint de cabinet de l'actuel donc ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Et donc, après cela, ce que dit apparemment Shamseddin Hafiz, c'est que, je le cite, on nous a instrumentalisés, infantilisés, traités comme des bougnoules. Alors, effectivement, Bruno Retailleau, lui, n'a pas accepté, en fait, l'invitation de la mosquée de Paris, je ne sais pas à quelle occasion d'ailleurs, mais en tout cas, Bruno Retailleau a refusé de se rendre à la mosquée de Paris.
C'est le seul point où tous les musulmans lui donnent raison.
Voilà, le seul point. Il y en a au moins un avec lequel...
Oui, non, parce que les autres, ils intimidaient les musulmans. Faites attention, on connaît le préfet, on connaît le chef du cabinet, on va vous dénoncer. Ils obtenaient le silence des gens par l'intimidation et les fanfaronnades. Là, on a un début de vérité. Thirod, c'est un ancien diplomate à Alger.
D'accord.
Pas avec n'importe qui, avec Drioncourt.
Voilà, Xavier Drioncourt, l'ancien ambassadeur.
Et il a connu l'avocat comme avocat des milliardaires du FCE, le Forum des chefs d'entreprise, dont quelques-uns sont en prison.
Oui, c'est le MEDEF algérien, en fait, le FCE.
C'est ça,
C'est les patrons, les plus grands patrons d'Algérie, en fait.
Oui, là, il pleurniche, il parle de Bougnoul, parce que Thirod lui a sauvé la mise en 2020.
Oui.
Thirod a été préfet, il a été rappelé, contre la carrière d'un préfet, d'un membre de cabinet et le devenir de M. Hafiz, le cœur de Thirod ne balance pas. Il choisit sa carrière. Il ne va pas sacrifier sa carrière pour un ignorant comme Hafiz.
Oui.
Bon. Donc s'il dit on nous traite de bougnoules, c'est que Tirode, deuxième, c'est comme Trump. Il y a Tirode 1 et Tirode 2. Comme il y a Trump 1 et Trump 2 sont très différents.
Effectivement.
Eh ben, Tirode 2 obéit à Rotaillot. Il n'obéit pas comme du temps de Darmanin. Et oui. C'est normal. Avant, l'attitude de Tirode posait des problèmes à la laïcité. Mm-hmm. Et qu'est-ce que c'est que ce soutien apporté à quelqu'un de totalement illégitime, qui est rejeté par la communauté et qui se croit légitimé par une consécration médiatique, par des journalistes amateurs ou complaisants. Parce qu'il y a, en Algérie, il publie deux pages à 150 millions de là-bas, c'est-à-dire à peu près 8000 euros ici. Mmh. Il achète des pages publicitaires.
D'accord.
Oui.
Dans quel média il achète des pages?
Al-Khabar.
Al-Khabar.
Oui. Okay. Al-Khabar, il a sévi plusieurs fois. Et c'est les journalistes du Khabar qui le balancent. Qui disent il a payé 150 millions.
D'accord.
Oui.
Ok, je vois. Mmh. D'accord.
Oui, mais moi, je l'ai dit plusieurs fois. Mmh. Il n'y a eu aucun démenti. Il croit... Mais Alger est à une heure d'avion de Marseille. Alger, ce n'est pas l'Australie.
Effectivement.
Puis avec toutes les communications, tout le secret que prétend garder M. Hafiz ne tient pas une semaine. Mmh. Tout finit... Il est balancé par le petit personnel qui ne l'aime pas. Mmh. Parce qu'il se prend pour... Et puis, c'est l'Ouenouri qui dresse le petit personnel contre lui. L'Ouenouri payait un journaliste, il lui donnait pratiquement un salaire, pour lui demander de le renseigner sur le cousin de Boubacar, Dalil, qui était directeur de l'Institut. Or, ce cousin de Dalil...
L'Institut de la Mosquée de Paris. Hein.
Oui, qui fonctionnait moyennement bien. Maintenant, c'est fini. Or, l'autre, il payait le même journaliste, qui pleurniche encore à Alger, il est rentré pour des raisons d'âge et de maladie, il regrette, il a dit, moi, j'avais des ressources occultes que je pourrais jamais avoir en Algérie. Il renseignait dans, les deux et il se faisait payer. Parce que voilà l'atmosphère délétère autour de Boubacar, parce que son cousin était candidat pour sa succession, en disant, il y a la légitimité de Oulad Sidi Chir, la tribu confrérie à laquelle appartenait Dalil. Il se disait son cousin, mais après, les intrigues de Hafiz et de l'Ounouri l'ont évincé. Et donc, c'est des gens qui règlent tout par la corruption, par l'argent. Là, se renseigner contre un concurrent, qui, lui, renseigne dans les deux sens, comme l'Ounouri est un agent double, je suppose que sa phrase sur Lerner devrait lui valoir d'être inculpé dès qu'il mettra les pieds en Algérie. Parce que qu'est-ce que c'est que ça? Il se dit agent des services algériens et il dit j'ai travaillé avec Lerner. Il n'y a aucun service qui tolère ça, sauf les services qui créent des agents doubles quand ils sont sûrs d'avoir le dernier mot. Or, lui, depuis qu'il a la nationalité française, il renseigne, d'ailleurs, sa garde à vue à Alger, c'était quand ils ont senti qu'il roulait plus pour les services français. Or, les services français et les services algériens, mais ils ont collaboré contre le terrorisme, mais c'est pas les mêmes crémiers. Elles sont en concurrence.
Oui. Effectivement. Alors, autre aspect, on va dire, un petit peu nébuleux, là, de l'article de Sophie Desdéserts, donc évidemment sa nomination en 2020 en tant que recteur de la mosquée de Paris pour prendre la suite de Dalil Boubacar. Alors Sophie Desdéserts nous explique donc que à partir de 2019, en tout cas, le clan Bouteflika, qui avait son homme avant que Bouteflika parte de la présidence de la République algérienne, donc en 2019, le clan Bouteflika avait, un nom, on va dire, pour succéder à Dalil Boubacar en tant que recteur de la mosquée de Paris, c'était Ghaleb Benchir. Hein, Ghaleb Benchir qui, à cette époque-là, animait l'émission Islam sur France 2 le dimanche matin, et qui anime toujours, d'ailleurs, l'émission...
Non.
Alors, attendez, qui anime toujours l'émission Question d'Islam à France Culture.
Oui, qui...
Voilà, dans laquelle vous êtes intervenu plusieurs fois, notamment pour parler de Malek Ben Nabi, de la fraternité musulmane de 1907, mais effectivement, il n'est plus présentateur de l'émission Islam sur France 2.
Il l'a écarté.
Voilà.
En inventant.
Oui.
par un mensonge éhonté.
Oui.
Un mail attribué à France 2 et France 2 assure qu'ils n'ont jamais rien envoyé. Il lui a dit, il est impossible de cumuler la présentation de l'émission et la présidence de la FIF, à laquelle Hafiz a été candidat. Il a été battu par un vote à bulletin secret.
Oui.
Lui, quand il s'agit d'élections, il est toujours, il est comme les généraux protecteurs.
Oui.
Ils perdent les élections, ils annulent les élections quand ça leur déplaît.
Effectivement.
Bon. Or, ce mail n'a jamais existé. Or, lui, il continue à cumuler. Qu'est-ce que ça? Lui, il voulait être président de la FIF. Il a fait un putsch à la mosquée et il continue à produire l'émission islamique. La première conséquence, il y a des gens qui préparent un texte à France 2. Ils disent, ils le présentent comme un espion algérien.
Mmh.
Plus ou moins, il y a sur TikTok, ils ont déduit des clips de cet article pour dire un espion, cet espion doit être arrêté.
Mais qui a produit cela sur TikTok?
J'ai dit TikTok, donc on ne connaît pas, il n'y a
oui,
rien.
Tu mens.
Oui, mais un article comme ça, bah, ça provoque des réactions dans tous les sens.
Oui.
Mais la réaction la plus légitime, la plus urgente, c'est de saisir France 2. Oui. Voilà une chaîne de service public qui permet à un agent de généraux qui est inculte islamiquement et qui a été imposé par Sarkozy. Il se glorifie de tutoyer Sarkozy, lui.
Oui.
Oui. Il a été nommé illégalement par Sarkozy à la tête de cette émission. Cette émission, je la connais quand même, puisque je m'en étais occupé avant leur arrivée.
Oui, tout à fait, à la fin des années 80.
Oui, là on peut rappeler comment il y avait quelqu'un qui s'appelait Christophe Baldelli, qui était à la tête de France 2.
Ah bah oui, bah il est à la tête de la nouvelle chaîne T18 par ailleurs. Hein.
Voilà. Or, Baldelli avait été avec Sarkozy au ministère du budget, à Bercy.
Donc ça date de 80, enfin des années 90.
Oui, mais Sarkozy a été...
Balladur était Premier ministre.
Oui, oui, mais après. Après, Sarkozy était ministre de l'Intérieur jusqu'en 2007.
Sarkozy a été ministre de l'Intérieur de 2002
puis il a été à
2004.
Bercy.
Ça, c'était en 2004.
Il était ministre du budget du temps de Balladur, puis ministre de l'économie et des finances.
Exactement, voilà. En 2004.
Oui, on peut en parler parce que Béchari, à l'époque, me mettait au courant.
Oui.
Même à Bercy, il continuait à les recevoir soi-disant secrètement.
D'accord.
Pour tirer les ficelles de. Béchari m'a raconté, il dit à Mohamed, si tu peux venir à 8h-20. On prend un petit déjeuner à Bercy, et il lui dit, ah, mais tu diras rien à Boubacar, il faut être là. Oui, tu es le seul, hein, Mohamed. Mm. Et, on apprend qu'à 8h15, c'est Boubacar qui est reçu, et à 9h-10, c'est Fouad Lalaoui. À chacun, il dit, tu es le seul à prendre le petit déjeuner, c'est un grand honneur.
Fouad Lalaoui, qui est?
C'est l'arrogant président de l'UE, secrétaire général de l'UEF, à l'époque.
Oui, qui s'appelle aujourd'hui les musulmans de France. Hein.
Oui, oui.
Bon.
Et donc, Sarkozy, qui revient au ministère de l'Intérieur, il convoque Baldelli, il lui présente Hafiz, qui était inconnu au bataillon, il lui dit, Christophe, il y a une émission religieuse chez toi, je suppose que tu es au courant, parce que dimanche matin, personne ne la voit. Moi, j'étais reçu en haut lieu à l'époque. Mm. Ah, ils m'ont dit, ah, parce qu'il y a une émission sur l'islam. Il y en a un qui m'a dit, ça doit être le vendredi. Moi, je travaille le vendredi matin. Je lui ai dit, non, le dimanche.
C'est sur France 2 avec, en fait, c'est pour rappeler, c'est, elle fait partie d'une super, enfin, on va dire d'un ensemble d'émissions qui s'appelle Les Chemins de la Foi et qui donne la parole à l'heure actuelle, qui donne la parole à la fois au bouddhisme, à la fois au protestantisme, au catholicisme, au christianisme oriental et au christianisme orthodoxe,
c'est
au judaïsme et à l'islam.
Oui. Voilà. Et Hafiz s'est retrouvé à la tête de Vivre l'Islam, qui a été créé au ministère de l'Intérieur.
Oui, c'est une association.
Et dont j'ai refusé de faire partie.
Oui.
J'ai parlé de Mochan tout à l'heure. Mochan a demandé à me voir quand il était outré d'apprendre, parce que Mochan venait de la Cour des comptes, qui veille à la régularité des dépenses, etc. Il apprend que France 2 avait été obligé de verser un demi-milliard un véritable escroc qui a fait même bas sur l'émission.
Oui.
Je raconte ça dans mon prochain livre, parce qu'il faut,
oui,
faut que les gens sachent.
Vous racontez déjà ça dans La France et ses musulmans que vous avez sorti en 2005. Vous en racontez une partie.
Oui, mais j'ai fait des confidences mesurées. Cette fois, Je ne me censurerai pas comme Madame Sophie des Déserts.
Ouais.
Donc ce type-là, voilà, on peut dire l'essentiel. Il se présente, moi je m'en occupais à l'époque. Il dit, cette émission doit être améliorée. Et puis ce monsieur avait une société de production à Kuwait City.
Oui.
Au Kuwait City, lui, il avait un compte bien approvisionné. Mais à partir du 3 août, ce compte a chuté de 1 à 10. À moins 10.
D'accord.
Parce que Saddam Hussein a indexé le dinar koweïtien sur le dinar irakien qui était très bas.
Et ça date de quand, ça, du coup ça...
Ben, c'est le 2 août 90. Début de la crise avec le Covid, comme disait Mitterrand.
Oui, donc effectivement, donc oui. C'est au moment.
Il se retrouve le bec dans l'eau. Oui. Eh ben, il a voulu jeter son dévolu sur la pauvre mission islamique, et il a prétendu que Mitterrand et Chadli disent que le seul qui peut la sauver, c'est ce monsieur. D'accord. Et puis par des intrigues très longues, très fatigantes à expliquer, il se retrouve. Il dit, je propose. Des émissions enregistrées chez moi. Il avait une sorte de palace à Avenue Yana, oui. Au métro Yana.
Oui.
Il dit, je fournis gracieusement les émissions. Et c'est écrit, il y a un article du contrat. C'est ce mot gracieusement qui lui a rapporté par la suite 500 millions. Mm-hmm. On était du temps du franc.
Oui.
Bon. Or, il a exigé que le sigle FMP, France Méditerranée Production, figure au générique des émissions.
D'accord.
Et avec ce sigle, il va au Qatar, il dit, les médias français sont dominés par les sionistes, donnez-moi les moyens, je vais inonder toutes les chaînes françaises d'émissions qui défendent le monde arabe, l'islam, etc. Il a obtenu 300 millions du Qatar.
D'accord.
Et quand il a tout dépensé, et qu'au Qatar, ils ont découvert son escroquerie, ils ne lui renouvelaient plus, et qu'il ne pouvait pas présenter d'autres émissions. Lui, il a promis de faire des émissions sur la 6. Il n'a jamais réussi. Mm-hmm. Il n'y a que l'émission islamique où la corruption est permise. Et il a pu être intronisé par une lettre du ministère de l'Intérieur, écrite le 23 décembre 1992.
D'accord.
Le 23 décembre, c'est la veille de Noël.
Effectivement.
La trêve des confiseurs.
Oui.
Il utilisait un poisson pilote qui s'appelait Ahmed Baba Miske,
oui,
un Mauritanien.
Vous en parlez dans votre livre de 2005.
Qui, lui, était un militant en faveur du Polisario. Et le conseiller d'islam au ministère de l'Intérieur était un fervent défenseur du Polisario.
Oui, qui défend l'indépendance du Sahara occidental.
Oui, mais Baba Miske n'a aucune compétence religieuse. Il a été viré de l'UNESCO, il est venu pleurnicher, il lui a dit, on va vous mettre à l'émission islamique.
D'accord.
Oui. Et donc, il se retrouve là-bas, et c'est ce Baba Miske qui a fait venir ce monsieur qui venait du Koweït, qui s'appelait Tolbi.
Oui, vous en parlez aussi dans votre livre.
Or, Tolbi, c'est après, il a fait du chantage à France 2, il a dit... Il leur a donné un devis. Vous devez me rémunérer toutes les émissions que je vous ai fournies ces dernières années, au tarif syndical.
Oui.
Donc, il les a évalués à 500 millions. Ils lui ont dit, mais vous avez dit gracieusement. Il a dit, ah ben justement, dans le droit français, il n'y a pas de gracieusement. Et si vous ne le faites pas, je vais vous dénoncer. Eh ben, ils étaient obligés de lui verser. Et ça ne l'a pas empêché de faire faillite par la suite.
Ok.
Et à ce moment-là, Mouchan me demande de revenir. Il m'a même invité à déjeuner à la cantine du ministère en présence de deux des conseillers du ministre. Il y avait une pléthore à l'époque autour de ce événement. Il y avait de bons conseillers comme Bernard Godard. Il y avait le regretté Alain Billon, qui venait du MDC. Il doit son poste à sa carte au MDC, pas à ses compétences.
Qu'est-ce que c'est le MDC, pardon, faut rappeler à nos...
C'est le mouvement des citoyens, c'est le petit parti de Chevènement.
Voilà, voilà, parce que ça a porté plusieurs noms, ça a porté aussi le nom de MRC aussi.
Après, le R, c'est quoi?
Mouvement républicain et citoyen.
Oui, lui, c'est la République contre la démocratie. comme les éradicateurs algériens, ils disent on est pour la République, pas pour la démocratie qui permet aux islamistes de gagner.
Bon.
D'ailleurs, Chevènement, il avait un faible pour ce courant-là. Il avait beaucoup d'autres vertus, mais pas celle-là.
Bon.
Et donc, Mochan a été outré d'apprendre ce chantage. Il m'a dit, parce que dans ma note, à moi, de cette page dont j'ai parlé au début, qui dit que l'islam en France est dirigé par 6 ou 7 officiers de renseignement alcooliques, on a parlé de l'émission et d'autres sujets, et il a pris le taureau par les cornes, il a dit, maintenant, il ne reste plus qu'à écarter connaître l'islam et créer une autre émission. Et Vive l'islam a été créé dans les locaux du ministère de l'Intérieur.
Effectivement.
Et il m'a dit, vous voulez en être? Je lui dis merci. Parce que tout de suite, j'ai vu que c'est pas au ministère de créer une... connaître l'islam a été créé par Jacques Berck sur un ordre de mission de Mitterrand en personne. Or, créer de toute pièce une émission dans les locaux du ministère de l'Intérieur, c'est une violation de la sacro-sainte laïcité. Et c'est cette... On retrouve quelqu'un qui sévit toujours, c'est Hafizi, Abdelrahman Hafizi, qui présente l'émission.
Oui, c'est l'actuel présentateur.
Il a été nommé par les renseignements généraux. C'était un informateur des renseignements. Donc voilà, l'émission islamique, la mosquée de Paris, il n'y a que le mouchardage et le renseignement.
Oui, et puis d'ailleurs...
Ça rapporte des promotions.
Et l'actuel recteur de la mosquée de Paris a présidé Vivre l'islam, du coup.
Il préside toujours.
Ah d'accord.
Bien sûr. C'est pour ça que ces révélations interpellent France 2. Comment peut-on maintenir à la tête d'une émission sur le service public quelqu'un qui est soupçonné d'être un espion algérien?
Mais enfin, si je crois ce que vous écrivez en conclusion de votre livre La France et ses musulmans, Shamseddin Hafiz, il est président de Vivre l'islam depuis combien d'années exactement? Parce que
après le départ de Baba Miskei.
Oui.
Baba Miskei lui a... Parce que Baba Miskei a refusé, il est assez respectable, il a refusé la nationalité française, ça lui a permis d'être conseiller d'un des présidents putschistes mauritaniens. Il a préféré partir là-bas, et il a tout laissé à Hafiz, nommé par... imposé par... en toute illégalité par Nicolas Sarkozy, qu'il tutoie.
Dans tous les cas, c'était avant 2005, c'est ça ce qu'il faut savoir. Shamseddin Hafiz, il préside l'association Vivre l'Islam.
Oui, moi, quand j'ai été voir Hafiz, en 2004, quand j'ai fini mon livre,
voilà.
Mon livre est sorti avec beaucoup de retard,
oui.
Il m'a parlé de cette histoire de nationalité de Baba Miskei. Il m'a dit, on a voulu le nommer au Conseil économique et social. Il invente, là, c'est un fanfaron. Quel pouvoir a-t-il, lui, pour nommer... D'abord, lui, il aurait pu commencer par lui-même, pour être au conseil. Ça l'aurait rapporté mieux que là où il gère des histoires de mœurs avec les imams, avec les secrétaires. Il ne faut pas croire que la pédophilie est une spécialité de l'Église catholique. Ça, il y en a dans des bureaucraties comme celle-là.
Bon.
Où il y a toutes sortes de rumeurs. Dont je ne parlerai pas à l'heure actuelle, sur beaucoup de gens.
Oui, bon, effectivement, c'est peut-être mieux comme ça. Alors, autre point, oui, parce que quand vous dites que Shamseddin Hafiz a fait un putsch pour être nommé recteur en 2020, vous avez rappelé lors de la dernière émission que tout ça s'est fait à la suite d'une assemblée générale ordinaire, c'est bien ça
C'est pour ça que sa nomination est illégale.
Oui, effectivement.
Parce que la succession... doit être réglé par une assemblée générale extraordinaire où on annonce l'ordre du jour.
Oui.
Or, l'ordre du jour de l'assemblée du 11 janvier 2020, c'était l'assemblée annuelle ordinaire.
Date symbolique d'ailleurs, 11 janvier, comme vous l'avez rappelé, c'est la date du coup d'État de 92 en Algérie.
C'est un néo-janviériste, oui. C'est un putsch qui est moins subtil que celui qui a évincé Chadli.
Et donc à l'Assemblée Générale Ordinaire, d'après ce que vous nous avez expliqué, Mohamed Louanouri explique en fin de réunion à Dalil Boubaker qu'il est censé partir, démissionner, qu'il a oublié d'en parler. Et Dalil Boubaker, vous l'avez rappelé, n'a pas signé, enfin en tout cas chez
Moi, quand je l'ai eu, Ramadan d'après, mars-avril, il m'a dit je ne signerai pas. Et il m'a dit Hafiz est incompétent.
Oui, alors il ne signe pas le procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire qui l'a poussé dehors, tout simplement.
Oui. Non, il ne voulait pas partir. Oui. C'est la fin. On est renseigné par deux membres,
oui,
qui sont à moitié courageux, c'est Seteri et Amardi,
oui,
qui ont informé des sites comme Algérie Patriotique, où ils ont expliqué, Seteri m'a expliqué comment ça s'est passé. Il m'a dit, Bakar allait se lever, et l'honoré le regarde, il sort un papier, le recteur a oublié de vous dire qu'il démissionne. Donc il l'a mis devant le fait accompli, il a dit, oui, effectivement, je suis fatigué, etc. Et puis, Bakar dit, c'est Hafiz qui prend la parole, qui je propose le frère Mohamed, qui connaît la maison et tout. Et l'honoré, il dit, non, je propose le frère Shamseddin, qui sait rassurer l'opinion française par des éléments de langage, etc. Et Hafiz dit, je remercie le frère Mohamed, mais je m'empresse de le promouvoir directeur général, alors qu'il était directeur de l'administration. Donc tout était prémédité à l'avance.
Oui, c'est ce qu'on...
Alors ensuite, il y a eu l'histoire de la fiche de paye. Elle a dit 8200, etc.
La fiche de paye de Shamseddin Hafiz, qu'il a présentée à la journaliste de Libération.
C'est ça. Oui.
Voilà.
Et ben d'abord, il faut vérifier. Celui qui a demandé de fausses fiches de paye pour sa femme, un expert comptable, il est tout à fait capable de produire de fausses fiches de paye uniquement. Bon, lui, d'après la rumeur, il perçoit 15 000 euros. Et non pas 8 000.
Oui.
Et c'est l'honoré qui perçoit 8 000 euros.
D'accord.
Ensuite, nous avons appris...
Mensuel, on est bien d'accord.
Oui, ça peut devenir hebdomadaire. Hein.
Oh.
Oui. Quand le pétrole est cher et les taxes. Là les c'est taxes. La dèche, parce que depuis la crise franco-algérienne, les taxes, il n'y a rien.
D'accord.
Ça a rapporté la première année 5 millions d'euros.
D'accord.
C'est pour ça qu'il éprouve le besoin d'aller quémander aux Émirats. Mmh. Oui. D'accord. Et puis, qu'est-ce que c'est que cette manière de leur donner une manne comme ça et transformer la mosquée en un poste de douane.
Oui, parce que c'est ça.
C'est pas seulement la viande halal, c'est le chocolat, le
yaourt,
etc. D'autres cosmétiques.
Aussi. Même aussi la cosmétique, oui. Bah,
oui,
tant
oui,
qu'à
oui.
faire.
Mais... Oui. Non, mais c'est une caisse noire. Parce que maintenant, Retailleau et beaucoup d'Algériens applaudissent Retailleau. Il dit, j'enquête sur les comptes de la nomenclature algérienne à Paris.
D'accord.
Et de leurs enfants.
Bon.
Alors, on nous dit que beaucoup d'enfants de la nomenclatura, on les voit à chaque fin de mois à la mosquée de Paris, dans le bureau de l'honoré.
D'accord, en fait, Retailleau, il enquête apparemment en fait, ça permettrait cette histoire d'enquêter sur les comptes de la nomenclatura, comme on dit algérienne. L'objectif, c'est, l'intérêt, on va dire, c'est aussi qu'on fasse la lumière sur les diverses caisses noires de la mosquée de Paris, en fait.
Là c'est l'enquête. Commandité par Retailleau en dehors de la crise algérienne, quand il y a eu la révélation par l'opinion de l'histoire des taxes.
Voilà, parce que cette taxe.
Retailleau, et puis il y a deux ou trois plaintes, dont celle de Bellamy.
François-Xavier Bellamy, qui est eurodéputé Les Républicains, qui a donc été élu l'année dernière aux élections européennes, et effectivement, il a porté plainte par rapport à cette configuration qui fait que la Grande Mosquée de Paris perçoit les taxes sur les produits qui sont exportés de l'Union européenne vers l'Algérie.
C'est ça.
Les produits alimentaires ou même cosmétiques, comme
non, il y a des
dire.
Petites PME de Montélimar, de Vannes,
oui.
qui exportent vers l'Algérie. Ils ont appris que leur exportation était bloquée à Oran ou à Alger. Ils se renseignent, ils disent, si vous payez la taxe à M. Hafiz, on libère les conteneurs, etc. Donc c'est quoi ça?
Mais ça
c'est illégal, même du point de vue algérien, c'est illégal. Ça.
D'accord.
Oui.
Mais
c'est
ça,
de donner, parce qu'il y a quand même des... Eux, ils disent qu'ils ont 250 mosquées, c'est faux. Eux, ils avaient 130 imams détachés, ceux qui ont fini les 4 ans rentrent, ils n'ont pas cette influence qui s'attribue. Ils n'ont pas 250. Ils avaient 53 imams détachés qu'ils ont fait monter jusqu'à 130. Il n'y a pas un 131e. Ils mentent, là. Ils s'attribuent une influence qui... Et puis c'est une influence... Et qui ne repose sur aucune relation spirituelle. Tant que l'imam est payé, après, les imams détachés qu'on a priés de rentrer en Algérie se dressent et dénoncent. Et Hafiz est son directeur général.
D'accord.
Donc c'est des relations. Alors vous avez cette fédération de la Grande Mosquée de Paris, où il y a autant de délégués que de régions. Il y a combien, 22 régions en France?
Oui, quelques.
Il y en a le plus contesté, le plus folklorique de tous, c'est celui de Lille, du Nord.
Mm-hmm.
Or, il a été dénoncé par un habitué des couscous parties de chez Hafiz, quand il a découvert qu'il y a du mensonge, de la démagogie. Il a dit, il a participé à la dernière campagne de Bouteflika en 2014, dans le Nord, où il y avait un député qui avait une alliance matrimoniale avec Saïd Bouteflika. Il s'appelait Bourras, député FLN.
Oui, oui, des Algériens de l'étranger, non? Ou député algérien tout court, d'ailleurs?
Non, député à l'Assemblée en Algérie.
Député algérien qui avait donc une agence matrimoniale.
Ce type-là, le représentant de la Fédération Grande Mosquée de Paris dans le Nord, s'est rendu à Alger. Il a été arrêté à l'aéroport en 2014 avec 50 000 euros dans les chaussettes, dans les au fond des valises à double fond, etc. On lui a confisqué les 50 000 euros, mais on l'a laissé partir, parce qu'on sait d'où ça vient. C'est pour récompenser son agitation pour la campagne électorale, où Hafiz s'est présenté sur la LCP, aux côtés de Yves Bonnet, l'ex-patron de la DST, comme président des comités de soutien à un énième mandat de Bouteflika.
D'accord.
Bon. Pourquoi? Parce que lui, il a commencé dans le service juridique de Air Algérie à Alger, qui était dirigé par Abdelghani Bouteflika. Donc lui, pour des raisons de carrière et de recherche d'avantages, il a renoué avec le frère du président et il a proposé ses services.
D'accord, parce qu'Abdelghani Bouteflika, c'est un frère de Saïd et Abdelaziz Bouteflika, du coup.
Oui, ils sont 4 ou 5, oui. Mostafa, Nasser. Bon, les frères de Bouteflika ne sont pas tous comme Saïd, hein, contrairement à ce qu'on dit. C'est des gens assez compétents qui méritaient leur poste. Or, mais maintenant, une des conséquences de l'enquête, de la prétendue enquête de libération, il y a des gens qui, à Alger, remettent en doute le diplôme qui a permis à Hafiz de devenir avocat.
D'accord.
Oui, parce que on a des gens qui ont été en première année avec lui à la fac de droit de Ben Aknoun, et qui l'ont perdu de vue. Il le retrouve à Paris. Il y en a un qui m'a dit, il est éditeur dans le 13e, il m'a dit, j'étais étonné de le trouver, et surtout encore plus étonné quand il m'a dit que j'ai eu ma licence. Il m'a dit, on l'a largué, il a redoublé plusieurs fois.
Okay.
Donc les mauvaises langues, pas seulement les enquêteurs, les fins limiers, soupçonnent qu'il ait eu sa licence sur un coup de fil. Ça s'est déjà produit à l'université de Constantine par un ministre qui a donné des diplômes à des gens qui n'ont jamais mis les pieds, comme l'Honoré a obtenu 10 diplômes. Il a obligé Sadiri, le directeur de l'institut, à signer 10 faux diplômes pour notamment sa femme, pour les gens qui voulaient nommer aumônier militaire. Et alors l'autre retombée de cette enquête, c'est la relance du rôle de la mosquée dans la nomination de l'aumônier national militaire, qui est toujours en place, qui s'appelle Mehdi Nazir, qui est très contesté, tellement contesté que l'état-major ne lui a pas renouvelé pour 3 ans, ils l'ont renouvelé pour 1 année, en attendant de lui trouver un successeur. Parce que c'est l'homme de l'Honoré qui crée des problèmes, il est d'une misogynie, et les gens les plus compétents, ils remènent la vie dure dans l'aumônerie militaire. Or, ces liens avec le l'Honoré sont de notoriété publique, c'est un secret de polichinelle. Et alors, l'état-major a fermé les yeux, tant qu'il y avait une sorte de lune de miel où Macron a participé au centenaire de la mosquée, et où le chef d'état-major est venu ici en 2023. Mais il est reparti sans signer aucun contrat. Alors qu'on s'attendait à des contrats du siècle pour les ventes d'armement à plusieurs milliards d'euros à l'Algérie. C'est à ce moment-là, il y avait une indulgence de l'état-major pour l'aumônier militaire qui dit avoir aussi un diplôme d'Alger. Il y a des doutes là-dessus, on n'a aucune preuve. Or, maintenant, cette indulgence a disparu. Okay. Pour vendre des armements à l'Algérie, on a fermé les yeux sur les liens entre l'Honoré et l'aumônier national. Or, maintenant, l'Honoré se plaint d'être traité de bougnoule. Le problème de Mehdi se repose. Et à la rentrée, on va voir que normalement, l'état-major devrait faire une enquête sur les conditions de nomination de quelqu'un sur la base d'un faux diplôme. Il y a 10 faux diplômes qui sont à l'état-major. L'état-major a enquêté là-dessus, mais elle n'a pas tiré toutes les conclusions. Mmh. Or, question, est-ce que cet article va aider à aller jusqu'au bout des démarches des gens qui veulent un assainissement, qui veulent plus qu'il y ait des passe-droits, qu'il y ait du copinage, et qu'il y ait un peu plus de respect des règles de la démocratie et de la laïcité. Mmh. On a des ministres qui n'ont que le mot laïcité à la bouche, mais quand il s'agit de situations comme ça, on a un soutien à une zone de non-droit. La mosquée de Paris, jusqu'à ce soir, est une zone de non-droit, surtout depuis Boubacar le Père, dont la nomination a été condamnée par le Conseil d'État, et moyennant quoi, il a sévi pendant 25 ans.
Tout à fait. Et d'ailleurs, le père d'Ali Boubacar, Hamza Boubacar, il a été nommé donc à la tête de la mosquée de Paris, c'était en 57 ou 58, quelque chose.
57.
Comme 57, voilà.
Oui.
Et effectivement, zone de non-droit, parce que, vous avez expliqué la dernière fois, c'est lié, comment dire, à cette... Essayez de nous rappeler, en fait...
il a commencé à s'agiter, lui, depuis le début des années 50, pour dire que le Sahara n'était pas algérien.
Voilà.
Or, c'était devenu un thème, quand Guy Mollet, les gouvernements français, commençaient à admettre mentalement l'idée d'indépendance de l'Algérie. Le premier réflexe, c'est de dire que le Sahara n'est pas algérien. On peut se retirer de l'Algérie et garder les richesses. Or, Boubacar était un fervent agitateur pour cette thèse. Et moi, j'ai cru qu'il s'est mis à défendre la partition de l'Algérie après sa nomination. Mais je trouve une note de Marcel Champex, qui était secrétaire d'État à l'Algérie, en mars... au retour d'une visite au Sahara avec Boubacar, il a dit « Vu le service que nous rend le professeur Boubacar, il mérite d'être nommé à la tête de la mosquée de Paris. » Et ce fut fait en mai, 2 mois après.
D'accord.
Alors, après, le directeur de l'époque, Ahmed Ben Rabrit, porte plainte à partir de Rabat, devant le tribunal administratif, et il gagne le procès. Recours de Boubacar au Conseil d'État, Conseil d'État confirme. Et c'est Ourabah qui instruit en 63, Ourabah est rentré d'Algérie où il était préfet. Il m'a dit, on a confié ça à un conseiller corse, il lui a dit, ces histoires de musulmans, c'est compliqué. Toi, tu t'appelles Mohand Sadak. Il lui a confié. Et Ourabah m'a dit, l'erreur de Guy Mollet, c'était de croire que les pouvoirs spéciaux votaient le 16 mars
56
s'appliquer à l'islam en France. Or, le Conseil d'État a dit non, en France, c'est la loi de 1905 qui interdit au pouvoir politique de se mêler de la nomination de dignitaires religieux. Donc ça a été condamné, mais il est resté 25 ans. C'est la preuve que c'est pas le droit qui régit les relations avec le pauvre islam.
Mais oui, parce que du coup, Hamza Boubacar est resté à la tête de la mosquée de Paris, alors qu'effectivement le Conseil d'État avait condamné la nomination, du coup. Mais comment se fait-il?
Mais avec Hafiz, c'est pire, c'est encore une zone de non-droit, parce qu'il y a plus de caisses noires. Boubacar avait des recettes, et Boubacar a réussi à maintenir son salaire de professeur agrégé, mais il avait des dons, des pays, il faisait des tournées en Orient, mais pas très importantes. Les recettes les plus importantes, c'est le contrôle de la viande halal importée par le Shah d'Iran. Pour ça qu'il était déprimé à l'arrivée de Khomeini. Il s'est mis à dénoncer les étudiants iraniens, etc. Mais avec l'opacité et les liens avec la branche la moins républicaine du pouvoir algérien, et surtout la transformation de la mosquée en un poste de douane, la mosquée a les possibilités d'un micro-État africain, d'une république bananière africaine. 5 millions d'euros, c'est beaucoup. Pour un pays qui n'a pas... dont les hôpitaux sont délabrés, les universités sous-développées, l'agriculture... Voilà, si l'Algérie, si Tebboune voulait vraiment le développement de l'Algérie, il y a moyen d'assurer l'autosuffisance en viande ovine et bovine. Mmh. Au lieu de ça, il choisit l'importation pour assurer des recettes pour les caisses noires de la mosquée, et puis nous savons très bien que dans le système de... import-export algérien, il y a toujours une liste de personnalités qui ont droit à des commissions.
Ah oui, bah oui, ça c'est comme ça depuis très longtemps.
Et pour ça qu'il y a une France-Algérie, Hafiz est au cœur d'une France-Algérie, mais là, il a atteint son niveau d'incompétence et son grand écart conduit à cette chicaya où lui aussi a utilisé le mot bougnoul.
D'accord. Mais juste une chose, comment se fait-il, c'est une question peut-être question toute simple, mais comment se fait-il qu'à l'époque, Hamza Boubacar soit resté recteur alors que le Conseil d'État avait condamné sa nomination? Comment
est-ce qu'il y avait Michel Debré. Il y avait tous les ministres, les généraux qui défendaient la partition de l'Algérie qui étaient en place.
Et à l'époque, et ça lui a permis de rester.
Il avait des protections jusqu'à la fin. Boubacar, bon, au moins c'est quelqu'un... qui a traduit le Coran, alors que l'imbécile ignorant de Hafiz, il a réuni des imams, mon éditeur d'Argenteuil, qui lui, bon, est assez naïf, il va là où on lui demande, il a dit, il me faut une nouvelle traduction du Coran que je puisse présenter au pouvoir public.
Ouais.
Alors, parce que dans l'état actuel du Coran et des traductions qui circulent, je ne peux pas les offrir, j'ai honte. Comment peut-il changer on peut utiliser le dictionnaire des synonymes, trouver des mots plus faibles que d'autres. Mm. Mais qu'est-ce que c'est? Quand il dit ça, il montre qu'il n'a jamais lu le Coran. Et jamais lu une bonne traduction. Mm. Alors maintenant, il n'en parle plus.
D'accord.
Et il a essayé de mettre dans le coup quelqu'un comme Kepel. Kepel qui travaille jamais gratuitement. Kara Dankos. Oui. Qui est morte. Et là, la journaliste nous apprend qu'Amin Malouf s'est retiré. Parce qu'Amin Malouf a succédé à Kara Dankos, à l'Académie française.
Mais il s'est retiré de quoi exactement? Parce que moi, ce que j'ai...
Oui, il y avait un jury plus bidon, plus ou moins littéraire, dans Stora. Enfin, moi, j'ai dit à Stora, tu te ridiculises en fréquentant un type comme ça. Il était, en fréquentant des gens sérieux, il veut se faire passer pour un autre. C'est comme, il a utilisé un texte que je leur ai donné, je l'ai donné à Louis Nourri quand il était tout sucre et miel avec moi après avoir essayé de m'assommer, il s'est retrouvé par terre. Louis Nourri, une fois, a préparé un gros gourdin à la sortie du livre de Samraoui.
D'accord.
Or, les imams lisaient. Moi, j'avais pas encore vu le livre de Samraoui.
Qui date de 2002, hein, ou 2003. Enfin, qui date d'il y a déjà un bon moment, quoi.
Oui, oui. Mais il lui dit non, Samraoui n'existe pas, c'est le pseudonyme de Sadek Selam.
D'accord.
Okay. Et quand il viendra à la mosquée, je lui réglerai son compte. Et il a préparé un très gros gourdin. Et moi, je suis venu, c'est le responsable des affaires culturelles avec, dans tous les sens du mot affaires, parce qu'il était très affairiste.
Oui.
Et il est rentré dans le bureau, il a essayé de m'assommer avec ce gourdin. Or, j'ai essayé de lui arracher ce gourdin parce qu'il n'est pas très grand de taille. J'ai tiré, il s'est retrouvé par terre.
Ok.
Il s'est retrouvé et ça a coïncidé avec la sortie des fidèles de la prière du milieu de l'après-midi. Ils l'ont vu, lui qui est intimidé, ils l'ont vu étaler par terre. Il s'est levé, il est parti en petite foulée, en répétant « je le tuerai, n'kotlo ».
Ok.
Bon. Après, j'ai porté plainte, on a eu une confrontation au commissariat. Au moment de la confrontation, j'ai montré la page 232 du livre de Samraoui. Après, il a envoyé cette décrit pour me demander rendez-vous, pour demander pardon. Et il m'a dit « pourquoi tu montres... le livre de Samraoui », il m'a dit « personne ne connaît Samraoui mieux que moi ». Alors après avoir dit aux imams qu'il n'existe pas. C'est Sadek Selam qui signe au Samraoui. C'est un imbécile. Samraoui commence par une réunion de 400 officiers secrètes à Ben Aknoun le lendemain de la mort de Boudiaf. Est-ce que j'y étais, moi? Une réunion fermée.
Oui.
Et, où il dit, Nazar leur a dit, c'est un des nôtres qui a tué le président, on va rentrer dans une zone de turbulence. Donc il faut se serrer les coudes. Donc il suffit d'avoir lu ces pages-là pour savoir que moi je n'étais pas à Ben Aknoun à ce moment-là.
Tout à fait.
Oui.
Et une autre chose qu'effectivement nous indique Mohamed Samraoui dans son livre donc qui s'appelle Chronique des années de sang, comment les services algériens ont manipulé les groupes islamistes.
C'est ça.
Si je me rappelle bien du titre, qui est donc sorti en 2003 aux éditions de Noël. Alors effectivement, il y a la fameuse page 232 où il explique que Mohamed Louanouri avant ça, c'était c'était un agent, voilà, des services algériens qui était, dites-vous, caporal dans l'armée algérienne ou quelque chose. Voilà,
même sergent, c'est trop généreux pour lui. Oui.
Voilà. Donc bon. Et effectivement, d'après ce qu'il est écrit ici,
il s'appelait le caporal Khalil.
Khalil.
Il était furieux qu'on l'apprenne il y a un an ou un an et demi.
Mais là, dans le livre, il y a marqué qu'il est surnommé Abdallah. À l'époque.
Ici, ben, il se disait le commandant Abdallah. Il se faisait pour les islamistes du 11e arrondissement, couronne et tout. Il le prenait pour un commandant.
D'accord. Et donc, ce que nous dit Mohamed Samraoui, c'est que donc Mohamed Louanouri a été infiltré vers 94. C'est ce qui a écrit en tant qu'employé à la mosquée de Paris, devenant.
Ah non, pas à la mosquée.
Alors, c'est ce qui est écrit là. Hein, je l'ai sous les yeux.
Oui, oui.
Mais il est écrit, je ne dis pas que c'est vrai, hein, mais j'ai...
Non, la mosquée, je l'ai vu arriver, il est venu tout sucré miel, parce qu'il sait que moi j'ai su d'où il venait avant la fin du mois.
D'accord.
Et comme il soupçonnait, il est venu, oui, si tu veux voir le colonel de l'ambassade, je peux t'amener. Je lui dis, qu'est-ce que je vais faire, moi, je viens prier à la mosquée, le colonel, s'il vient prier ici, on peut prendre un café. Mais c'était un alcoolique comme les autres. Mais moi, j'ai su qui il était quelques semaines après son arrivée. Il est resté dans la méfiance jusqu'à ce qu'il décide de m'assommer. Il s'est retrouvé par terre.
Oui.
Mais la principale révélation de Samraoui, il a dit avant de venir, il était chargé de faire exploser les voitures piégées.
C'est exactement ça.
Dont une a fait 7 morts, le communiqué les a attribués au GIA.
Voilà, c'est ça, c'était sur le parking du... Alors, ça s'appelle
Riyad al-Fatah.
Riyad al-Fatah, oui. Effectivement, le 21 janvier 93, durant le mois de Ramadan, attentat, je cite, qui a été bien sûr attribué aux islamistes.
Et donc, tout le temps, oui.
Voilà, et donc Mohamed Louanouri, à cette époque-là, était en gros chargé de faire des attentats, ce qui a été appelé à un moment donné des attentats pédagogiques, si je ne dis pas de bêtises.
Oui, on a inventé tout, mais voilà. Tout le monde sait que...
C'est des attentats, c'est la stratégie de la tension en fait, c'est destiné à attribuer ça...
Mais sans le GIA, si le GIA n'avait pas existé, c'est comme le dieu de Voltaire. Le DRS l'aurait créé.
Voilà.
Parce que moi j'ai rencontré des journalistes chrétiens en Orient, la seule visite que j'ai faite. Ils étaient outrés, des journalistes libanais, maronites, qui sont anti-islamistes, anti-islam. Ils disent, qu'est-ce que c'est que ce pays qui annule les élections uniquement parce que ça déplaît à des généraux. Donc l'interruption des élections, c'était quelque chose de totalement répréhensible.
Oui.
Or, on l'a justifié a posteriori en créant le GIA. Oui. Le GIA, d'abord, il y a eu une protection par Boudiaf. Boudiaf a vu pendant les 6 mois où il y a beaucoup de gens qui acceptaient le coup d'État. Ils disent, puisque on fait venir quelqu'un qui va assainir. Ils l'ont flingué quand il a décidé d'avoir le vrai pouvoir. Or, ça nous ramène à la mosquée. Parmi les conseillers de Boudiaf, il y avait un certain Ahmed Jabbar.
D'accord.
Oui. Qui était à Annaba au moment où son patron a été tué, il accepte d'être nommé ministre de l'Éducation.
D'accord.
Bon. Et ce Jabbar, on le retrouve en janvier 2020, président du Conseil des sciences et de la culture de la mosquée de Paris.
Ok.
Avis a fait, parce que c'est des éradicateurs qui communiquaient, les Sifawiyyi, cette poignée d'éradicateurs qui étaient chargés de vendre le coup d'État ici, dans les salles de rédaction. Et ça a rapporté 300 000 euros à M. Sifawi, bon. Le fonds Marianne.
Oui, mais, bah oui. Bah
or,
oui.
Sifawi, qui dit Sifawi, dit Hafiz.
Oui.
Oui. Or, maintenant, Sifawi passe Sifaoui, c'était la plume, c'est lui qui rédigeait les textes. Hafiz ne sait pas rédiger. Il est d'une éloquence médiocre.
Oui.
Tout avocat qu'il est.
Oui.
Pourquoi? Parce que c'est les affaires qui l'intéressent. L'affairisme.
Oui.
L'affaire, il incarnait d'adresse prodigieux. Puisque pendant 30 ans, où toutes les transactions, les secrétaires généraux, des officiers, des milliardaires qui viennent, il était toujours dans ces transactions occultes. C'est ça qui le passionne. La religion, il a montré qu'il ne connaît pas. Il a écrit un manifeste contre le terrorisme. Là oui. aussi, ça a fait... Oui.
Oui.
C'est Sifaoui qui lui a écrit. Tout le monde le sait.
Okay.
Or, il y a 2-3 ans, il y avait un colloque au ministère de la Défense. National algérien, dans les locaux, au Tagara, où ils l'ont inscrit. Il a promis de parler en arabe.
Ok.
Parce qu'il voulait la promotion de son livre. Or, les vrais spécialistes du terrorisme, qui l'ont lu, la veille, ils l'ont remercié, ils m'ont dit, c'est pas la peine de vous déplacer. Et ça a été une des claques. Il y a des enquêtes sur lui depuis sa définition du terrorisme, parce que le Polisario, maintenant, une partie de l'administration Trump, dit que c'est un mouvement terroriste. Or, lui, il est l'avocat. Il a des formulations qui peuvent conduire à classer le Polisario comme mouvement terroriste, dont il est l'avocat.
Oui, puis ça n'a aucun sens, parce que de toute façon,
il est dans la contradiction.
Le Polisario,
oui.
Donc.
Il a des développements contre le Hezbollah.
Oui.
Or, le livre dont parle Sophie Machin, là.
Sophie des déserts.
Oui.
Le livre.
Il a été édité chez un militant du Hezbollah.
De quel livre vous parlez, pardon?
Le livre qu'il vient de publier, c'est les éditions Bourak.
D'accord.
Bourak, oui, c'est dirigé par un militant du Hezbollah, à qui il a donné la librairie de la mosquée. Alors, à quoi ça sert de dénoncer les fréristes et de dire, Nicolas, si tu fais une connerie en admettant les frères musulmans dans le CFCM, si c'est pour traiter avec le Hezbollah? Les frères musulmans, ils sont pour loi Satya, ils sont plus acceptables, supportables que le Hezbollah, qui dépend directement de l'Iran. Il est dans la contradiction plusieurs fois par jour, cet ignorant.
D'accord. Il y a encore aussi, on pourrait en parler pendant très très longtemps de tout cela. Alors en fait, il y a deux autres aspects qui m'ont interpellé dans l'article. Déjà, il y a un autre aspect qui m'a interpellé dans l'article de Sophie des Déserts, c'est que du coup, si on croit ce qu'il y a écrit, Shamseddin Hafiz donc est un homme de Abdelmajid, c'est ce qu'il y a écrit, de Abdelmajid Tebboune et de son directeur de cabinet Boualem Boualem. Et il y a aussi, alors, il y a aussi une.
Pas seulement. Oui. Il a commencé par être l'homme d'Abdelaziz Khalaf.
Qui est Abdelaziz Khalaf,
qui était directeur de cabinet et qui a réussi à placer sa fille Nariman, qui est recrutée de pour moi, c'est pour gérer ce pactole des taxes.
Oui.
Et Nariman Khalaf, elle vient. Normalement, M. Retailleau devrait s'intéresser à cette primo-arrivante.
D'accord.
Est-ce que la communauté musulmane manque de compétences pour que M. Khalaf nous envoie sa fille? Sans parler des informations qui ne sont pas que des rumeurs sur des appartements payés cash par la mosquée pour les deuxièmes épouses de collaborateurs du président ou de ministres.
D'accord.
Bon. Et puis, il y a un vrai problème avec ces primitives. Moi, j'ai fait des émissions là-dessus.
Oui.
Sur plusieurs chaînes, des émissions d'une heure sur cette taxe. Ça n'a eu aucune répercussion sur les médias français. Ils attendent des consignes d'un ministre laïque, ou qu'il y ait une crise majeure. Mais quand ça concerne uniquement les musulmans et leurs relations avec leurs faux représentants, ça n'intéresse aucun journaliste. On leur signale l'information, ils disent non, l'abondance des matières ne permet pas. Malgré ça, j'ai été indulgent, moi, avec cette... Je lui ai consacré 2 heures. Mais là, je ne la recevrai pas une deuxième fois. Parce que elle vient préparer, en nous faisant perdre du temps, pour complaire à Hafiz, et faire de la pub pour lui, finalement. Cet article peut être utilisé par les communicants de la mosquée en faveur de la promotion du recteur. et qui servira à faire taire les clans qui ont demandé son éviction. Puisqu'il il est attaqué, on le présente comme anti-sioniste alors qu'il a soutenu le grand rabbin sur BFM, à tel point qu'on a demandé son éviction. Et donc c'est un article qui fait oublier ses turpitudes. Puisque Libération, finalement, ne lui reproche que son ambiguïté sur le 7 octobre, ambiguïté supposée, oui, non réelle, et sa non-participation à la manif contre l'antisémitisme.
D'accord.
Donc c'est un article qui peut utiliser sa propagande pour une durée indéterminée. Et on va voir si cette fois-ci, les enquêtes, il y a une ébullition à Alger, le concernant, pour vérifier. On va voir comment... parce que tout... moi, je suis pessimiste sur cette branche de la diplomatie française, des diplomates dont le nom n'est pas cité par Sophie, qui attribue un pouvoir et une influence à Hafiz.
Oui.
Tout le monde sait que c'est du bluff.
Oui.
Quelle est l'influence en dehors de Thirot qui l'a soutenu, et même Driancourt l'a soutenu.
Allez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui dans Médias et Antifascisme, donc sur Radio Libertaire. Voilà, donc on est obligé de s'arrêter s'arrêter là. Il reste à peu près 45 minutes d'entretien avec Sadek Selam, et nous diffuserons la fin de cet entretien. Ce sera donc vendredi 10 octobre, le mois prochain. Vendredi 10 octobre prochain à 11h30. Là, ce sera pour notre 13e épisode. Tout de suite, donc, je vais laisser la place à Christophe pour l'émission Les Oreilles Libres. Donc effectivement, hein, on se retrouve le 10 octobre prochain à 11h30. Le temps pour moi de vous rappeler que vous pouvez écrire à notre émission à l'adresse mail médias-et-antifascisme@protonmail.com, via notre compte Facebook et Blue Sky Médias et Antifascisme tiré du 6 Radio Libertaire 89.4 FM en IDF, via notre compte X, anciennement Twitter, via l'arrobase média au pluriel tiré du 8 antifa au singulier, sur Instagram également, média tiré du 8 et tiré du 8 antifascisme tiré du 8 RL, sur Mastodon via le serveur todon.eu, via l'arrobase média tiré du 8 et tiré du 8 antifascisme tiré du 8 RL tiré du 8 IDF, ou enfin par courrier à l'adresse de la librairie du Monde Libertaire Public, de la librairie du Monde Libertaire Publico. C'est au 145 rue Amelot, 75011, Paris. Et pour nous soutenir financièrement, vous avez rendez-vous sur radio-libertaire.org dans la rubrique « Nous soutenir ». Vous pouvez y télécharger le bon de souscription et le retourner complété au 145 rue Amelot, 75011 Paris, ou enfin envoyer un chèque à l'ordre de DMC. Tout de suite, vous retrouvez donc Les Oreilles Libres sur Radio Libertaire 89.4 FM en Ile-de-France. Et quant à nous, donc, on se retrouve le vendredi 10 octobre prochain à 11h30 pour un nouvel épisode de Médias et Antifascisme, avec entre autres la fin de l'entretien avec Sadek Selam sur l'enquête de libération du numéro des 9 et 10 août dernier sur la mosquée de Paris. Merci à vous et bonne écoute des programmes sur Radio Libertaire 89.4 FM en Ile-de-France. Christophe, c'est à toi.